France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Patrick. Bonsoir. Charnitsky, vous avez, votre nom a fait buter Frédéric Martel, mais en même temps,
un petit peu.
Un très grand nom. Vous publiez Les paradoxes de la coopération aux éditions Erol, sous-titré Comment rendre le collectif vraiment intelligent. On pourrait même dire comment éviter les bêtises que le collectif peut nous faire faire. Oui. Vous êtes docteur en psychologie sociale, vous êtes directeur associé au sein du cabinet Alternego. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de mécanismes psychosociaux, de diversité. Vous avez publié toute une série d'ouvrages dont le dernier, l'inclusion de la posture à la pratique avec Pete Stone pour la FMD, c'était en 2018, c'est-à-dire déjà l'année dernière. Et là, vous publiez ce livre, vous tentez d'analyser ce que vous appelez l'engaiement pour le tout-co. Le tout-co, co-construit, co-agit, co-décidé. C'est ce fameux, ces techniques de management qui connaissent un énorme succès, notamment depuis les années 2010 à très grande échelle. Et vous dites que paradoxalement, la psychologie sociale n'a pas beaucoup travaillé sur les questions, a travaillé sur les questions d'influence sociale et de la manipulation, mais pas vraiment sur l'entreprise. Pourquoi vous avez voulu travailler sur ces formes de management basées sur la coopération?
Alors en fait, il y a trois raisons. La première, c'est que j'ai enseigné tous ces thèmes quand j'étais maître de conférence des universités, donc je connaissais ça très bien, mais dans une transmission très très académique. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, mon métier consiste à accompagner les entreprises sur la question de la diversité. Et on voit bien que plus la diversité augmente, plus mécaniquement, on risque d'avoir du mal à se comprendre et à travailler ensemble. Et puis la troisième, c'est effectivement cet engouement qui est arrivé d'un seul coup et est arrivé sous une forme vraiment presque autoritaire. Hein. On a décidé en fait du jour au lendemain qu'il fallait que on s'intéresse aux relations horizontales et pas uniquement à la verticalité dans les organisations.
Le top-down, comme on dit voilà, en anglais dans le management.
D'un seul coup, il faut que les gens qui vivent au même étage travaillent ensemble. Et en fait, on l'a décrété. Or, l'être humain n'est pas construit pour coopérer. On est beaucoup plus baigné depuis la petite enfance dans des logiques de compétition. Et donc, l'objet du livre, c'est pas du tout de m'inscrire en faux contre l'intelligence collective ou même l'entreprise libérée, mais c'est juste de poser un peu quelques pare-feu pour dire attention, la coopération, c'est pas intuitif. Il y a des pièges dans lesquels on peut tomber, et donc quels sont ces pièges?
L'entreprise libérée, c'est un concept de management. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est un mot, c'est un slogan. Il y a une promesse qui est vendue. Rien ne dit que l'entreprise soit véritablement libérée. Ça, vous l'expliquez d'ailleurs en introduction dans votre ouvrage. Les entreprises de la Silicon Valley, Palo Alto, ont joué un rôle assez déterminant. Pourquoi est-ce que ce type de management a été on va dire théoriser, appliquer, imposer particulièrement là-bas?
Parce qu'on était dans une forme d'agilité indispensable, qu'on était sur des écosystèmes qui n'avaient d'autre choix que d'être de réagir à des changements qui était quasiment au moins le mois, quoi. Donc et puis les Américains ont peut-être cette aptitude un peu plus importante que nous à faire le pont entre le savoir académique et puis ce qui se passe en entreprise, qui est pas complètement surprenant compte tenu du fait que les entreprises participent à la vie académique, ce qui est pas du tout le cas en France. Alors on a d'autres avantages à ce que ce soit pas le cas en France, mais du coup on a du mal parfois à faire le pont entre les deux. Et moi c'est vrai que après 15 ans d'une carrière académique où on est plutôt conditionné à publier dans des supports qui sont lus par pas grand monde, j'ai vraiment eu très très tôt cette envie de vulgarisation et de faire le pont justement entre les deux.
Peut-être justement on peut essayer de définir ce que c'est que ce travail collectif de travail et la coopération et peut-être lister, donner quelques exemples. Vous essayez de mettre en exergue 7 biais qui peuvent intervenir et qui peuvent véritablement être contre-productifs en réalité à tout point de vue. On va peut-être en parler d'au moins 2, mais ça consiste en quoi? Qu'est-ce que c'est l'idée simplement? Quand vous parlez des paradoxes de la coopération, on parle de quoi?
L'idée, c'est de se dire que mécaniquement, on pourrait imaginer que quand on travaille à 4, le minimum, ça serait que de considérer que la performance qui est produite soit 4 fois supérieure à la performance individuelle. Bon, l'intelligence collective, c'est de produire plus que ça. C'est le fait qu'on ne soit pas sur une logique additive, mais sur une logique interactive, c'est-à-dire qu'il y ait une forme d'enrichissement réciproque qui fasse qu'on devienne un peu plus intelligent grâce au regard de l'autre et que du coup, à 4, on produise le travail qu'on aurait pu produire si 6 personnes avaient travaillé seules. Or, il se trouve que la psychologie sociale démontre depuis plus de 50 ans qu'il y a des situations dans lesquelles non seulement on produit pas un travail équivalent à la somme, mais on peut produire un travail inférieur, à la fois en termes de performance, c'est-à-dire que, par exemple, on parle dans le livre de la paresse sociale où, effectivement, effectivement à trois, on peut produire un travail inférieur à ce que chacun aurait produit chacun de son côté. Et moi, j'ai été prof longtemps à l'ESCP Europe et je peux vous garantir que les travaux collectifs que de certains de étudiants qui eux-mêmes sont brillants individuellement et pas du tout à la hauteur. Et puis à la fois en termes de prise de décision. Or, il se trouve que quand on prend une décision à 5 ou à 10 dans un COMEX, on se rassure en imaginant que puisqu'on est d'accord, on peut pas se tromper. Sauf que si on a été fabriqué pareil, on raisonne pareil. Et qu'à 10, on peut créer des erreurs bien plus graves parce que justement, il n'y a pas le pare-feu de la contradiction.
Parmi les autres biais que vous listez, il y en a deux différents mais qui finalement se rejoignent. Est-ce que vous appelez la normalisation ou comment le collectif peut créer une norme qui est inappropriée, qui est en fait pas la bonne, pas celle qui est bonne au niveau de la productivité, mais qui est en fait confortable pour tout le monde et qui le rejoint? Il y a la question évidemment, la question du conformisme, c'est-à-dire comment un collectif va décider de ses propres lois et va finalement les imposer à quelques dissidents isolés qui ne font pas partie du collectif. De quoi on parle là?
En fait, la situation est très très simple. Hein. Vous imaginez un groupe où il y a 7 personnes qui débattent, il y a un tour de table, les 6 premières expriment une idée, et la 7e, elle entend les 6 premières parler, et puis elle commence à prendre conscience qu'elle a une opinion qui est dissonante par rapport aux 6 premiers. Donc elle a deux choix. Soit elle affirme son opinion, et elle se met en confrontation avec le groupe, ce qui veut dire que si c'est répété, ça produit une exclusion symbolique et à terme une exclusion qui peut être physique. Donc c'est potentiellement du mal-être. Et puis d'autres choix, c'est de se dire, moi j'ai quand même une injonction d'exister socialement dans cet écosystème, et donc je vais finir par dire comme eux. Soit consciemment, et je joue le jeu, soit encore pire, inconsciemment, en me disant que la quantité faisant loi, il est impossible que ces 6 personnes soient dans l'erreur alors qu'elles sont d'accord entre elles.
Oui, on n'est donc pas du tout dans un schéma qui est plus fin qu'une décision qui serait imposée par une personne
pas.
À cette autre.
Absolument.
Comment est-ce qu'on peut faire quelles sont les clés, par exemple, pour éviter ces situations-là qu'on a, je pense, tous connu. Là, on parle du monde de l'entreprise, mais c'est quelque chose qu'on a même connu, même dans la vie.
Bien sûr. Alors, c'est à deux niveaux. Il y a un travail à faire sur soi qui consiste à lutter contre cette injonction, qui consiste à penser qu'à plusieurs, on a forcément raison. Et donc, il faut faire l'effort de décorréler la rareté ou la fréquence d'une opinion de son contenu. Et ça demande un travail en fait, parce que automatiquement, par exemple, vous êtes dans un jury d'assises, vous débattez d'un cas, et puis vous êtes 9 jurés populaires, il y en a 8 qui considèrent que vraiment le gars est coupable. À un moment donné, vous êtes vous persuadé qu'il l'est pas, mais sans avoir forcément de faits pour alimenter votre thèse, mais c'est comme ça que vous le sentez, vous allez pas vraiment oser dire que vous êtes pas d'accord, d'accord, parce qu'à un moment donné, l'acceptation par le groupe peut être beaucoup plus importante.
Autre biais très important, et là aussi très très en qui fait écho à beaucoup de choses qui se passent évidemment dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, la polarisation collective. Et alors là, vous dites, c'est comment le collectif peut radicaliser les opinions individuelles. On voit très intuitivement à quoi ça correspond. Ça, concrètement, dans la vie de l'entreprise, et notamment aussi dans la société, dans une société qu'on appelle informationnelle, qu'est-ce qui se passe au niveau du collectif, et notamment dans le travail?
Alors ça, c'est quasiment le phénomène inverse, c'est-à-dire c'est un phénomène assez naturel et systémique par lequel, à partir du moment où des gens à peu près d'accord sur un thème, même s'il y a toujours un peu de divergence, se mettent à débattre, ils rentrent dans une logique de rentabilité de l'effort. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'y mets de mes opinions, pourquoi pas parfois intimes, j'y passe du temps, je mets de l'énergie, et puis je mets sur la table des arguments qu'éventuellement les autres n'ont pas, le phénomène qui peut se produire, c'est que finalement le groupe finit par avoir une opinion qui est plus extrême que la moyenne arithmétique des opinions individuelles. Ce qui pose encore une fois un problème d'exactitude et ce qui est particulièrement le cas dans des situations de conflit ou d'opposition entre deux clans qui ne seraient pas d'accord mais avec un désaccord qui serait mineur. Si on n'intervient pas immédiatement, chaque clan va se mettre à discuter de son côté et le produit de ces débats, c'est d'extrémiser et du coup vous créez un écart de plus en plus important qui fait qu'au bout d'un moment les deux parties sont impossibles à réconcilier.
Ça justement, vous en parlez, vous avez énormément d'exemples concrets, théoriques. Et parfois, évidemment, il y a une très belle littérature sur des études qui ont été menées dans ce livre qui est à la fois très précis et très didactique.
Merci.
Concrètement, comment est-ce que vous voyez, on parle ici beaucoup avec à Softpower de la mutation, de la transformation numérique, de l'arrivée de grands, grands groupes comme les GAFAM, mais surtout de leur culture, comment elle irrigue des entreprises dont le numérique n'est pas le cœur de métier, mais qui doivent engager une transformation numérique et qui, dans cette volonté, essayent d'en adapter la culture. Comment est-ce que vous regardez peut-être de manière générale et pour conclure, la manière dont ces techniques de management sont ou pas adoptées en France, avec quelles précautions ou pas d'ailleurs?
Alors elles sont relativement peu adapté, parce que, enfin en tout cas peu adopté, pardon, parce que il
très
y
bon
a
lapsus.
Oui oui absolument, parce qu'il y a dans l'entre-soi et dans la capacité à être d'accord un confort qui dépasse parfois très très largement la volonté d'être exact, et c'est tout, et c'est tout le problème du plaisir qu'on peut avoir dans l'entre-soi. Et là ça fait le lien aussi avec tous mes travaux sur la diversité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que cherche un groupe? Est-ce qu'il cherche à aller bien? Est-ce qu'il cherche à créer une ambiance dans laquelle on se reconnaît dans les autres et dans laquelle on n'est pas, pas menacé? Ou est-ce que vraiment le groupe est capable de poursuivre un but d'exactitude, quitte à créer des zones de frottement? Donc c'est tout l'enjeu de ce livre, c'est de dire comment je crée les conditions empathiques, bienveillantes du débat et de la contradiction pour faire exister ces opinions qui sont divergentes. Et on n'est pas tellement habitué à ça en France parce qu'on est dans... pour le dire vite, une culture du contrôle, et qu'on aime bien être dans un environnement qu'on contrôle et qu'on maîtrise.
Bon, et bien donc à tous les managers, mais aussi aux salariés, on peut le dire à tous, le livre de Patrick Chernitsky, Les paradoxes de la coopération, comment le collectif vraiment intelligent, c'est aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci pour cette invitation, très flatté.